À la une de cette édition, année 1400 de l'égire solaire, année de production, soutien et élimination des obstacles, déclaration du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Khamenei, à l'occasion de son discours de nouvel an à l'adresse de la nation iranienne. Le président Hassan Rouhani a déclaré que les ennemis de l'Iran n'ont d'autre moyen que de reprendre une interaction constructive avec la République islamique. Et puis la base aérienne Khamis Mouchaït visée, MBS appelle au secours de dômes de fer. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les gens en Iran et dans plusieurs autres pays célèbrent l'ancienne fête millénaire de Nowruz, qui marque le début de l'année civile perse. Les gens font généralement du shopping pour se préparer à l'arrivée du printemps. En Iran, Nowruz tombe le 20 mars de cette année. Une des traditions de Nowruz est de mettre en place une table appelée Haftsin, qui contient sept éléments commençant par le son persan S. Autour de la table, les Iraniens prient pour une année meilleure et plus prospère. L'ambiance est festive pour les Iraniens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Chaque année, les Iraniens fêtent le nouvel an le premier jour du printemps en rendant visite à leurs parents et leurs amis, et des coups de téléphone et des messages sont multipliés à cette occasion selon un ordre bien précis qui mélange à la fois le respect et l'affection que l'on porte à chacun selon la tradition iranienne. Pour les Iraniens, cette célébration de la renaissance de la terre et de la vie associée au début du printemps est associée à de multiples rites. Dès la fin de l'hiver, les familles commencent un grand ménage, s'habillent de neuf. Cette année, comme l'année passée, il a été conseillé aux gens de rester à la maison et d'éviter les voyages et les rassemblements en raison de l'épidémie de coronavirus. Année 1400 de l'égire solaire, année de production, soutien et élimination des obstacles, déclaration, je vous le disais, en titre du leader de la révolution islamique à l'occasion de son discours du nouvel an à l'adresse de la nation iranienne. À l'occasion du nouvel an iranien, le leader de la révolution islamique a adressé ses vœux à la nation iranienne qui a achevé une année 1399 du calendrier de l'égire solaire, pleine d'épreuves et qui entre dans un siècle nouveau, plein de promesses. Le leader de la révolution islamique a qualifié l'année 1399 d'année de démonstration des capacités de la nation iranienne, tant dans la confrontation avec le coronavirus qu'avec la pression maximale de l'ennemi, précisant « Aujourd'hui, nos ennemis, avec leur tête, les États-Unis et leurs amis européens, disent explicitement que la politique de pression maximale a échoué. Signe de cette victoire, cette année de 1400 de l'égire, l'Ayatollah Khamenei l'a baptisée année de production, soutien et élimination des obstacles. » Le leader de la révolution, l'Ayatollah Khamenei, a souligné la résistance du pays face à la crise du coronavirus au cours de l'année écoulée. Le leader a déclaré que la nation iranienne avait démontré ses capacités, y compris pour faire face à la maladie. Il a salué le personnel médical, les chercheurs, les scientifiques, pour leurs efforts dans la gestion de la pandémie, malgré les sanctions. Le très haut dirigeant a également félicité le peuple face à la campagne de pression maximale des États-Unis, affirmant que l'Iran savait qu'il était voué à l'échec. Il a ajouté que l'ennemi, dirigé par les États-Unis, ont même reconnu l'échec de la campagne anti-iranienne. Le leader a souligné que l'année 1400 est importante car il y aura une élection présidentielle et plus de mesures envisageables pour stimuler la production. Il a appelé à des mécanismes juridiques et gouvernementaux pour éliminer les obstacles à la croissance intérieure. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques lors d'un discours marquant le nouvel an iranien et la fête nationale de Nowruz. Le président Hassan Rouhani a déclaré pour sa part que les ennemis de l'Iran n'ont d'autre moyen que de reprendre une interaction constructive avec la République islamique d'Iran. Hassan Rouhani a fait ce commentaire dans son discours du nouvel an à l'adresse de la nation. Il a déclaré que les ennemis sont désormais convaincus qu'ils ne pouvaient pas parler à la nation iranienne avec le langage de la force, des menaces et des sanctions. Hassan Rouhani faisait référence à la soi-disant campagne de pression maximale des États-Unis contre l'Iran sous l'ancien président milliardaire Donald Trump. Il a déclaré que la politique de Trump avait échoué en raison de la patience et de la persévérance de la nation iranienne. Le président a en outre appelé à une compréhension nationale afin de parvenir à la stabilité économique et à une croissance économique durable. Toujours à l'occasion du Nouvel An, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, dans un message sur son page Twitter félicitant Nowruz, le début du Nouvel An iranien, a exprimé l'espoir que la nouvelle année mettra fin au cours à la violence, aux meurtres, aux menaces, aux politiques dominatrices et à l'oppression. Il est temps pour les États-Unis de changer d'approche. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a conseillé aux autorités américaines d'avoir une révision fondamentale dans leur esprit et leur approche. Dans un tweet vendredi, Saïd Khatibzadeh, le porte-parole de la diplomatie iranienne, a écrit « Pendant des décennies, les États-Unis ont tenté d'exclure l'Iran du droit et de la politique internationaux et ils ont profondément échoué ». En retweetant le lien YouTube de son discours au Forum de dialogue de Téhéran, Saïd Khatibzadeh a écrit, je cite, « Il est grand temps que les États-Unis adoptent des changements fondamentaux dans leur réflexion et donc dans leur approche. Pendant des décennies, les États-Unis ont tenté d'exclure l'Iran du droit et de la politique internationaux. Il a profondément échoué. Il est grand temps que les États-Unis adoptent des changements fondamentaux dans leur façon de penser et donc dans leur approche. » L'actualité régionale avec la Palestine. Les forces israéliennes ont tué un Palestinien lors d'une manifestation en Cisjordanie occupée. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que la victime avait reçu une balle dans la tête dans un village près de la ville de Naplouse. Rien n'a filtré sur les détails. Les forces israéliennes réagissent souvent violemment quand il s'agit des manifestations palestiniennes. Ils vont jusqu'à recourir à la force meurtrière contre les habitants des territoires palestiniens occupés en avançant différents prétextes. Autre thème, c'est la Syrie. Des manifestants protestent contre la présence militaire turque à Afrin à l'occasion du 3e anniversaire de l'occupation turque en référence à l'opération Rameau d'Olivier lancée en janvier 2018 par Ankara. Des centaines de manifestants ont marché dans le village syrien de Fafin au nord-est d'Alep. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté le 18 mars dans le village syrien de Fafin, au nord-est d'Alep, manière de protester contre la présence militaire turque dans la ville d'Afrin, située au nord-ouest de la Syrie, en zone frontalière avec la Turquie. Certains manifestants ont symboliquement arboré des branches d'olivier, symbole de la région. Les talibans s'opposent à l'idée américaine d'un gouvernement de coalition pour l'Afghanistan. Moscou a accueilli une conférence des trois élargis, à savoir la Russie, les États-Unis, la Chine et le Pakistan, sur le règlement afghan à laquelle participent des représentants du gouvernement afghan, des talibans officiellement interdits en Fédération de Russie et de l'opposition légale. Lors des négociations, le responsable de Kaboul a soutenu le principe de séparation des pouvoirs proposé par les États-Unis dans le futur gouvernement de coalition de l'Afghanistan. Si la séparation des pouvoirs est la voie à suivre, c'est bien, mais la question est de savoir dans quelle proportion les partis seront représentés et ainsi de suite. C'est une question de négociation, rien ne vaut si, cite le chef du Conseil suprême pour la réconciliation nationale, Abdullah Abdallah. La proposition américaine comprenait une clause sur la séparation des pouvoirs, mais ce n'est pas une sorte de plan qu'ils ont proposé et que tout le monde doit accepter. Non, les États-Unis ont proposé un ensemble d'idées qui incluent la séparation des pouvoirs. Il a également précisé qu'il ne s'attendait pas à des percées de la conférence au Moscou, puisque les talibans ne sont pas d'accord avec tous les points à l'ordre du jour. La base aérienne Khamis Mouchaït visée, MBS appelle au secours de Dôme de fer. Au cours de sa seconde opération de représailles, l'armée yéménite a pris pour cible la base aérienne du roi Khalid en Arabie Saoudite. Ce vendredi 19 mars, l'armée yéménite a fait part de sa deuxième opération de drone visant une base militaire dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Yahya Sari, le porte-parole des forces armées yéménites, a déclaré dans un communiqué paru sur Twitter en réponse à l'intensification des attaques de la coalition saoudienne et au blocus de notre pays par cette coalition, l'unité de drones de l'armée a attaqué ce vendredi la base aérienne du roi Khalid Khamis Mushit. Fin de ce journal, Madame, Monsieur. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Al-Qaïda en Syrie, une source fiable des médias occidentaux. La presse occidentale a célébré les 10 ans de guerre contre la Syrie en répétant à satiété sa lecture des événements. Selon elle, on assiste à une révolte contre le président Assad. Ce qui se passe en Syrie est identique à ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, en Libye et au Yémen. Ces 4 autres pays n'ont plus depuis longtemps de leader que l'on puisse accuser d'être un dictateur. La vraie cause de leur effondrement est à recherche hors de leurs frontières. Il ne s'agit pas de guerre civile, mais du plan Rumsfeld-Zebrowski que le président Bush a qualifié de guerre sans fin. La Syrie n'est pas une dictature alaouite, mais une république bassiste. On peut se moquer de la rigidité de ce parti, mais ni nier son rôle central dans le pays, ni contester sa laïcité. La torture est avant tout l'œuvre des terroristes. Elle a été pratiquée dans les années 50 par la Syrie lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni soutinrent le coup d'État d'Adib Shishakli. À l'époque, l'OTAN dépêche le SS Alois Brunner pour former les services secrets syriens qui adoptèrent alors la cruauté des nazis. Hafez al-Assad n'accéda au pouvoir qu'en 1971. Il renvoya Brunner, mais conserva les officiers formés par lui. Lorsque Bachar Assad devint président en 2000, il fit arrêter et emprisonner Brunner et il interdit strictement la torture. Au début de la guerre, en 2011, certains fonctionnaires de leur propre initiative pratiquèrent la torture. Ils ont tous été démis de leurs fonctions et jugés. La plupart d'entre eux se sont enfuis et ont obtenu l'asile en Europe. Certains sont actuellement jugés en Allemagne. Le président Bachar Assad n'est en rien responsable de la mort de ses concitoyens, qu'il n'a cessé de défendre. Ce sont au contraire les États-Unis, le Royaume-Uni et la France qui ont soutenu militairement et financièrement les terroristes qui en sont responsables. Aujourd'hui, la République arabe syrienne est divisée en 3. Outre le territoire libéré, une petite partie au nord-est est occupée par les États-Unis et leurs mercenaires kurdes. Une autre petite partie, au nord-ouest, le gouvernorat d'Idlib, est occupée par Al-Qaïda dont la dénomination locale actuelle est Hayat Tahrir al-Sham. La population d'Idlib est estimée par les Occidentaux à plusieurs millions en réalité et ne peut pas excéder 100 000 personnes. Cet émirat islamique est protégé par l'armée turque. Les témoignages de la presse occidentale ne peuvent donc être que de pure affabulation. Au cours des dernières semaines, Hayat Tahrir al-Sham a reçu instruction de Washington, non pas de renforcer ses opérations contre la République arabe syrienne, mais de préparer des attentats à Moscou. Pour cela, il vient de libérer le terroriste ouzbek Sirajuddin Mokhtarov, qu'elle avait arrêté il y a 9 mois, lors de son conflit avec Abu Muhammad al-Julani. Mokhtarov était le chef de l'attentat du métro de Saint-Pétersbourg en 2017, provoquant 15 morts. Ils font désormais des commandos suicides pour opérer en Russie.